RCF. Bonjour, fidèle auditeur, auditrice de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Notre invitée aujourd'hui, Madame Michèle Dugénie. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire honoraire, l'école en guerre, 1914-1918. Madame, encore merci pour votre présence, pour un sujet passionnant, l'école. Mais devant l'immensité de la question, je me suis attaché à choisir un thème militaire, justement, les instituteurs dans la Grande Guerre, avec comme première émission, les instituteurs à la veille de la Grande Guerre, dans notre département. Avec comme première question, Madame Dugénie, nous disons instituteurs. Mais y a-t-il des institutrices dans nos écoles, chère madame?
Eh bien oui, bien sûr, cher monsieur. Et elles sont même majoritaires dans le département, puisque les instituteurs sont 495 et les institutrices sont un tout petit peu plus de 600, 605 exactement. Voilà, donc c'est un corps qui est déjà majoritairement féminisé. Et la guerre va accentuer le problème. En tout cas, la réalité de cette féminisation.
Alors, une question certainement très vaste, Madame Dugénie. Est-ce que l'école est prête à la guerre?
Alors, elle est prête sans s'y être préparée complètement selon, je dirais, l'idée habituelle, communément admise. Après la défaite de 1870-71, on a beaucoup réfléchi sur les causes de la défaite et on a souvent attribué en partie cette défaite à la supériorité de l'instituteur allemand sur l'instituteur français. Et la mise en place de l'école de Jules Ferry, pour faire simple, a été une des conséquences de cette défaite. L'école devait préparer la revanche. Or, en fait, cette préparation intensive avec des programmes revanchards et des injonctions auprès des instituteurs dans ce sens, en fait, ce mouvement s'est épuisé assez vite puisque à partir de 1890-95, on voit un essoufflement de ce sentiment de revanche qui s'explique en partie par le relais pris dans l'opinion française et dans la politique par les conquêtes coloniales qui apparaissent comme une sorte d'épopée de remplacement, c'est-à-dire une sorte de consolation de la défaite de 1870.
Est-ce que l'éducation nationale, dirions-nous maintenant, est prête à une mobilisation?
Alors oui, l'instruction publique, comme on le disait à ce moment-là, elle est prête dans la mesure où elle a développé chez les maîtres et chez les élèves un très fort sentiment patriotique. C'est-à-dire que les jeunes adultes qui sont passés par cette école sont prêts à défendre leur pays. Et quand on avance dans le temps, jusque, disons, à la veille de la guerre, ils sont prêts à une guerre défensive. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus persuadé que la guerre va éclater puisqu'il y a des crises internationales, en particulier crise marocaine et crise balkanique, que la guerre va éclater et qu'ils seront prêts sans y avoir été préparés militairement par l'école. Oui. Puisque, je vous rappellerai, l'échec des bataillons scolaires qui ont
été... Rappelez-moi ce que c'est qu'un bataillon scolaire.
Alors, ces bataillons scolaires, justement, dans l'esprit de la revanche, avaient été instaurés par Paul Bert au début des années 1880. Et le but était de former, pour les plus grands élèves de l'école primaire, des bataillons qui auraient suivi un entraînement militaire, soit avec des fusils en bois, soit avec des fusils modèle réduit des fusils réels, de façon à ce que dans l'école, il y a une préparation militaire. Or, cette mise en place a été extrêmement difficile. Et pour le Cher, j'ai pu constater, à partir de lettres du préfet envoyées à l'inspecteur d'académie, que c'était un échec, qu'on avait beaucoup de mal à mobiliser les communes et qu'en fait, à partir de 1888, ces bataillons scolaires n'existent pas. On peut même douter que dans le Cher, ils aient eu une quelconque réalité.
Mais est-ce que l'organisation de l'instruction publique se prépare à une telle mobilisation?
Ah, pas du tout. Une telle mobilisation, non. Peut-être juste, les forces militaires, l'armée s'y prépare, et justement, c'est un des points qui rejoint mes recherches, c'est dans le domaine des hôpitaux militaires, puisqu'il y a effectivement un projet très très précis qui va être mis en place très rapidement, de réquisition des locaux scolaires pour y installer des hôpitaux auxiliaires ou complémentaires. Donc sur ce plan-là, l'école est, je dirais, peut-être même involontairement mobilisée. Mais en ce qui concerne les structures de l'instruction publique, pas spécialement. On pourrait peut-être rappeler aussi dans ce cadre-là les lois militaires, oui. Puisque à partir de 1905, et c'est une grande nouveauté, les instituteurs, contrairement aux périodes précédentes, sont astreints, comme tous les jeunes Français, à faire leur service militaire de 2 ans en 1905, puis de 3 ans à partir de 1913.
Alors, justement, la transition est parfaite. Nos instituteurs sont-ils prêts à la guerre ? Désirent-ils cette guerre ? Parce que souvent on a dit que les enseignants n'étaient pas spécialement militaristes, mais est-ce qu'ils sont militaristes en 1914 ?
Non, ils ne sont pas militaristes en dehors d'une petite minorité d'instituteurs qu'on voit se former au début du XXe siècle, un certain nombre d'associations avec des instituteurs patriotes qui justement craignent que le milieu enseignant constitue une sorte de faiblesse en cas de mobilisation et de guerre. Mais ils sont très minoritaires. Les autres, on pourrait, et je m'appuie sur des études d'historiens fort sérieux, comme M. Audouin Rousseau ou Olivier Loube, en fait, ces instituteurs sont plutôt humaniste et pacifiste, tout en étant patriote. Ça n'est pas contradictoire, justement, et il n'y aura aucune récrimination connue. En tout cas, tous les instituteurs du Cher partiront en guerre. Il n'y a aucun témoignage de refus de la guerre. Il n'y aura pas d'instituteurs du Cher mutin en 1917. Donc, ils ont adhéré à l'Union sacrée, tout en ayant des sentiments plutôt pacifistes, ce qu'on verra après la guerre.
Est-ce que l'instruction publique a prévu de les remplacer ?
Pas du tout. Pas du tout. Et justement, ça a été une de mes grandes découvertes de trouver aux archives des lettres du préfet demandant instamment à l'inspecteur d'académie de l'époque, en 1914, de dresser une liste des instituteurs mobilisables puis mobilisés à partir du 2 août. Et en fait, on a l'impression d'une panique, puisque ces listes sont très mal dressées, pas par ordre alphabétique, et même l'inspecteur d'académie joint une note en disant « Bon, je vous envoie cette liste, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit totalement juste, en fait. Hein ». Donc, ils n'ont pas prévu de les remplacer. Les instituteurs mobilisés partent le dimanche 2 août, et le 3 août au matin, beaucoup de classes n'ont pas d'instituteurs. Alors, en fait, combien de classes ? 233 instituteurs sont mobilisés au titre de la mobilisation, je ne parle pas des instituteurs qui étaient sous les drapeaux dans le cadre du service militaire de 3 ans, mais en tout cas les instituteurs titulaires sont 233 à partir. Il y a donc 233 classes qui se trouvent le lundi matin sans maître.
Qu'on va remplacer.
Je ne suis pas en mesure de parler très très en détail des 2 semaines qui séparent la déclaration de guerre, la mobilisation, du début des vacances, puisque les enfants travaillent début août, ils ne sont en vacances que le 14 août, le vendredi 14 août. Donc je suppose que ça a été très désorganisé pendant ces 2 semaines. Le problème se pose à la rentrée. C'est surtout à la rentrée d'octobre 1914 que la question des remplaçants se pose drastiquement. Et ils vont être remplacés, enfin, le plus rapidement possible, par des instituteurs normaliens qui auraient dû faire leur 3e année d'école normale. D'autre part, certains instituteurs de la classe 14, qui donc devaient partir immédiatement, ont eu un sursis d'appel. Ceux que j'ai rencontrés ont un sursis d'appel jusqu'en janvier 1915, probablement le temps de recruter des intérimaires.
Alors ces intérimaires, justement, parce que je pense que la promotion donc de l'école normale n'est pas suffisante pour remplacer.
Pas du tout. Alors ces remplaçants, ils ne sont pas tous intérimaires. Parmi les remplaçants, on a été chercher dans le vivier de l'instruction publique, comme je le disais, donc des normaliens en fin de cursus, mais aussi des instituteurs retraités. J'ai quelques témoignages d'un papa instituteur qui remplace son fils qui part aux armées. De toute façon, les départs en retraite qui étaient prévus à la rentrée 1914 sont ajournés. Donc nous avons un personnel âgé, ce qui n'est pas sans poser de problème, les inspecteurs le souligneront au fil de la guerre. Mais très rapidement, on va faire appel à des intérimaires, surtout des femmes, au statut extrêmement précaire. Alors ces femmes, soit ce sont des épouses d'instituteurs, qui n'avaient pas fait l'école normale, mais qui avaient le brevet élémentaire. Et puis, de proche en proche, des femmes dont les maris sont partis à la guerre et qui sont toujours munis du brevet élémentaire quand même, hein, comme garantie, qui sont dans une situation financière difficile.
Oui, très précaire, m'avez-vous dit.
Très précaire, puisqu'il y a des textes très officiels qui leur rappellent périodiquement qu'elles ne sont bien sûr pas titulaires du poste et que si la guerre se termine, elles seront renvoyées dans leur foyer.
Donc des conditions peu enviables.
Ah oui, surtout que leur traitement est égal à celui d'un normalien, c'est-à-dire à peu près de 1200 francs par an, hein, ce qui est un salaire de misère.
Mais écoutez, Madame Dujani, merci pour ces explications passionnantes sur les instituteurs à la veille de la Grande Guerre dans notre département. Nous nous retrouverons pour une seconde émission sur les instituteurs, cette fois-ci dans la guerre. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs de la vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense. Et bonne semaine à vous.